Chers frères et sœurs et chers amis, nous arrivons à l'étude numéro 15. Et avant de continuer l'étude concernant l'ascension du vainqueur et son triomphe total, nous désirons de mieux connaître les divers noms de Dieu. Voyez-vous, toute l'histoire du salut, elle est celle du Dieu qui manifeste sa gloire en se révélant à travers la création et la rédemption. Or, la nature intime d'une personne ou d'un objet s'exprime dans le nom qu'il désigne selon cette phrase de Franz Delitzsch, un commentateur célèbre: le nom d'une chose est l'empreinte de sa nature et l'expression de l'impression qu'elle produit. En tant que auto-révélation de la divinité, l'histoire doit donc être la manifestation des noms essentiels de Dieu. Et comme il se manifeste à la fois à travers la création et la rédemption, nous devrions nous attendre à la révélation de deux noms essentiels, l'un relatif à sa souveraineté et à son pouvoir en tant que créateur, l'autre en relation directe avec son alliance et son amour rédempteur. Et c'est précisément le cas. Dieu se dépeint lui-même de deux façons essentielles, comme Elohim, créateur et gouverneur universel, comme Yahvé, rédempteur et Dieu de l'Alliance. Que ces deux noms soient effectivement les deux noms principaux de Dieu, cela ressort clairement de la fréquence de leur emploi dans les saintes Écritures. Tandis que Adonai, le Seigneur, est employé 450 fois, Tsebaoth et El, qui veut dire Dieu puissant, se retrouvent chacun environ 238 fois. Eloah et El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, chacun, quelque 50 fois, se retrouve dans les Saintes Écritures. El Elyon, le Dieu Très-Haut, environ 32 fois. On trouve 2570 fois le mot Elohim, et près de 6000 fois Yahvé. Tous ensemble, les noms de Dieu apparaissent donc environ, tenez-vous bien, 10 000 fois dans l'Ancien Testament, ce qui montre leur profonde et glorieuse signification dans le cadre de la révélation biblique. Pour les Arabes, nous avons Allah, Dieu Tout-Puissant, qui doit être considéré avec respect et crainte. Yahvé vient de Hava. La prononciation correcte du tétragramme hébreu YHWH est apparemment Yahvé. la prononciation Jéhovah fut introduite pour la première fois par des érudits chrétiens il y a 4 siècles. La première trace de cette prononciation étant trouvée chez le moine franciscain Peter Galatinus, un Israélite baptisé, dans son livre « Les mystères de la vérité catholique » de Arcanis Catholica Veritatis en 1518, est publié un an après que Luther a fait ses thèses à Wittenberg. Les manuscrits hébreux originaux ne contentaient que les consonnes, parce que ça ne pouvait pas contenir autre chose que les consonnes, mais lorsque, beaucoup plus tard, les Masorètes, transmetteurs du texte, ajoutèrent les voyelles au texte, ils placèrent les voyelles d'Adonaï sous le tétragramme qu'on lisait Adonaï. Ainsi oublia-t-on de plus en plus la prononciation correcte au bénéfice du Jéhovah de Galatinus. Le chemin vers le but est Yahvé seul. Il est Yahvé Roi, c'est-à-dire le Seigneur mon berger. Psaume, chapitre 23, verset 1. Il est Yahvé Rofeka, le Seigneur qui me guérit. Exode, chapitre 15, verset 26. Il est Yahvé Tzidkenu, le Seigneur, qui est notre justice. Jérémie 23, verset 6. Il est Yahvé Shalom, le Seigneur qui est la paix et le salut. Juges, chapitre 6, verset 24. Et dans la bataille contre les puissances qui voudraient nous ravir ses bénédictions, il est Yahvé Nissi, le Seigneur ma bannière, selon Exode chapitre 17, verset 15. En effet, il est aussi Yahvé Tsebaoth, ou plutôt Tsebaoth. Je le répète pour que ce soit bien compris. Yahvé Nissi, c'est le Seigneur qui représente ma bannière. Exode 17, verset 15. Il est donc également Yahvé Tsebaoth, c'est-à-dire le Seigneur des armées. Et comme tel, il est le chef des armées des étoiles et des galaxies. Ésaïe, chapitre 4, verset 26, chapitre 45, verset 12, Juges, chapitre 5, verset 20, et Job, chapitre 38, verset 7. Il est donc le chef suprême du monde des anges également. 1 Rois, chapitre 22, verset 19, 2 Rois, chapitre 6, verset 17, Josué, chapitre 5, verset 13 à 15, Néhémie, chapitre 9, verset 6, et psaume 103, verset 21, et le psaume 148, verset 2. Il est donc également le commandant de tous ses guerriers ici-bas. 1 Samuel, chapitre 17, verset 45, et Nombre, chapitre 10, verset 36. En qualité de Yahvé Tsebaoth, Il commande à toutes ses armées afin de conduire son peuple au triomphe et son royaume à sa perfection. C'est pourquoi Yahvé Tsebaoth, c'est vraiment son nom le plus puissant, c'est l'expression la plus éloquente de son pouvoir sur le monde en même temps que son nom royal, le plus élevé. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? C'est Yahvé Tsebaoth, l'Éternel des armées. Voilà donc le roi de gloire. Psaume 24, versets 9 à 10. Elohim est le Dieu élevé, le supratemporel, élevé bien au-dessus des limites du créé. Yahvé est le Dieu intratemporel qui y entre et y témoigne de lui-même. Elohim est le Créateur, donc l'origine et le but. Yahvé est le Rédempteur, le Dieu de l'histoire. Elohim est principalement le Dieu du commencement et de la fin. Yahvé est avant tout le Dieu du milieu qui se glorifie à la fin. Le royaume de puissance deviendra le royaume de gloire. Entre les deux s'étend le royaume de grâce dont le contenu essentiel est la rédemption. Yahvé est le Dieu qui, dans le cours de cette histoire, est le médiateur entre le commencement et la fin et qui unit pour toujours la grandeur du Dieu Elohim à la gloire de Yahvé. L'histoire devient ainsi le retour de la création d'Elohim, l'homme en particulier, sous la conduite de Yahvé, au Dieu Yahvé Elohim. Ce double nom devient ainsi le motto de toute l'histoire de l'univers, de la même manière que Jésus-Christ est le motto de l'âge néo-testamentaire. Voici donc le caractère graduel du plan du salut. La Bible dit que Dieu a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Hébreux, chapitre 1, verset 1. Dieu est l'Éternel, il est le Créateur du monde. Il est la cause supratemporelle de toute existence temporelle. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Psaume 90, versets 1 et 2. Ce Dieu d'éternité a appelé les âges à l'existence, selon Hébreux chapitre 1, verset 2. De lui sont issus le mystère de sa volonté, Éphésiens chapitre 1, verset 9. Les décrets de création et de rédemption. Lui qui accomplit toutes choses selon le conseil de sa volonté, Éphésiens 1, verset 11, il s'est proposé en lui-même ce dessein, Éphésiens chapitre 1, verset 9, et cela en sorte qu'il est le Créateur et le Roi non seulement de l'univers, mais encore des périodes de l'histoire du monde, c'est-à-dire de tous les âges. 1 Timothée chapitre 1, verset 17, il est le Roi des âges. Il est le commencement, l'alpha, car de lui et par lui sont toutes choses. Romains, chapitre 11, verset 36. Et si la fin de toutes choses retourne à lui, afin que Dieu soit tout en tous, selon 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 28, c'est parce que la fin réside dans le commencement. L'alpha contient l'oméga. Pour lui sont toutes choses. À lui donc la gloire dans tous les âges. Amen. Romains, chapitre 11, verset 36. Ce but final de Dieu, c'est amener toutes choses ensemble sous une même tête. C'est ça le but final de Dieu, c'est d'amener toutes choses ensemble sous une même tête. Éphésiens, chapitre 1, verset 10. Il ne l'a pas révélé en une fois dans la plénitude de sa signification, mais bien au contraire, originellement, sa sagesse a été une chose cachée. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 7, et le mystère de son décret a été gardé secret, et cela au temps des âges. Romains, chapitre 16, verset 26, plutôt 25. Romains 16, verset 25. Éphésiens chapitre 3, verset 5 et le verset 9. Et vous pouvez ajouter Saint Jean, chapitre 16, verset 12 et 13. C'est donc graduellement à travers l'histoire du salut que Dieu a fait connaître ce plan. Heureux sont nos yeux et nos oreilles qui voient et entendent ce que l'on n'a pas pu percevoir malgré leur ardente investigation. Les saints hommes des temps anciens, Saint Matthieu 13, versets 16 et 17, et ajouter la première épître de Pétre, non de Pierre, chapitre 1, verset 10 et 11. Le progrès ne fut pourtant pas régulièrement progressif comme le serait une ligne ascendante continue. Il faudrait plutôt parler de sections de temps auxquelles certaines limites ont été assignées et qui se suivent à l'image des marges d'un escalier. À l'intérieur de chaque période, Dieu assignait aux hommes un certain chemin à parcourir, après quoi il intervenait à nouveau, mais dans un nouveau cadre d'événements. Il se révéla d'abord à l'humanité comme à un tout et traité avec elle en tant qu'unité. Cela dura environ 2300 années. Je répète, cela dura environ 2300 ans. Et il laissa alors subitement, il a laissé les hommes livrés à eux-mêmes et choisi un individu qui s'appelait Abraham. Au début, il s'appelait Abram, inaugurant ainsi pour lui une toute nouvelle ligne d'histoire. 430 années plus tard, il a ajouté une loi à laquelle Israël devra se conformer pendant 1500 ans. 1500 années. Après cela, la nation d'Israël est mise de côté et un peuple est formé d'entre toutes les nations. Mais finalement, Israël, premier peuple élu, sera à nouveau repris et rétabli après de longs siècles de dispersion. Au second peuple de Dieu sera donnée la gloire céleste, tandis que l'ensemble de l'humanité sera béni d'une manière visible. De l'ancien monde, finalement, jugé par le feu, un monde nouveau sortira pour conduire enfin la création jusque vers la consommation. Tout le cours du salut se présente ainsi comme une chaîne de périodes richement colorées, escaliers montants, véritable organisme historique fait de parties articulées. Ce caractère graduel de l'histoire du salut la gouverne à tel point qu'il doit être regardé comme son principal aspect externe et comme le principe de toute la structure de la révélation. L'étude du développement du salut doit donc conduire à reconnaître les caractères particuliers de chacune de ces périodes, pour autant qu'elles soient révélées dans la Bible. L'Écriture sainte n'est pas un bloc uniforme, mais un merveilleux organisme articulé à la fois historique et prophétique, qui doit donc être lu organiquement avec le discernement des âges et dans le cadre de chacun d'eux. Le nom que l'on donne à ces degrés importe peu, qu'on les appelle période du salut, qu'on les appelle les âges ou les éons, étant le terme le plus rapproché des termes originaux, ou, comme partout dans les milieux chrétiens, on les appelle les dispensations. Voir Éphésiens chapitre 1, verset 10, notez-le, et le chapitre 3 d'Éphésiens, verset 2. Et vous pouvez ajouter Colossiens chapitre 1, verset 25, ainsi que 1 Timothée chapitre 1, verset 4. La Bible ne donne de définition précise ni pour l'une ni pour l'autre de ces définitions. On peut cependant remarquer que la Sainte Bible mentionne d'une manière précise un certain nombre d'âges. Primo, les âges qui nous ont précédés, Ecclésiaste, chapitre 1, verset 10, parmi lesquels plusieurs s'accordent à reconnaître l'âge de la création primitive, l'âge prédiluvien ou de la restauration. Secondo, le présent âge mauvais, Galates chapitre 1, verset 4. Et tierso, les âges à venir, Éphésiens 2, verset 7, soit l'âge à venir ou âge millénial, l'âge des âges ou la nouvelle création. Un âge dans la Bible comme une ère en géologie est une période de durée variable qui s'étend entre deux grandes transformations physiques de la Terre et des conditions de la vie humaine qu'il modifie. Le sens du mot « dispensation » est beaucoup moins rigoureux. Un seul âge peut en effet être le cadre de plusieurs dispensations divines. Bien que l'essentiel ne soit pas le mot employé, mais la vérité qu'il recouvre, il nous paraît pour le moins tout à fait normal de tenir compte de cette distinction. De là, les divergences possibles entre commentateurs sur la division et sur la classification des divers âges ou dispensations. Il importe certainement bien plus de reconnaître la chose elle-même que de discuter de l'expression qui la désigne. Le point essentiel est de percevoir ces étapes et de reconnaître leurs différences et leurs relations intimes. Une époque dans l'histoire du salut est une période historique ou une tranche d'histoire marquée par des principes divins bien spécifiques et bien définis. Elle s'accompagne d'un contexte spécial et de devoirs spéciaux en relation avec l'ensemble du Conseil divin du salut. Chacune manifeste, au regard de l'homme, une nouvelle grandeur et une nouvelle magnificence du Fils, car tous les âges se rapportent au Fils. Hébreux, chapitre 1, verset 2. Cela explique que des principes valables dans une période puissent se rapporter en même temps à d'autres. Il n'en reste pas moins que leur agencement relatif à un complexe de principes n'apparaît qu'une seule fois dans une époque et pendant un temps déterminé auquel il appartient. Chaque époque se distingue donc des autres et forme à elle seule une entité inclusive. Une nouvelle tranche d'histoire commence toujours lorsque du côté de Dieu un changement est par exemple introduit dans la composition des principes valables, c'est-à-dire quand du côté de Dieu trois choses concourent. Primo, la continuation de certaines ordonnances jusque-là applicables. Secondo, l'annulation d'autres règles jusque-là imposées. Et tierso, l'introduction du principe nouveau. Avec l'introduction, par exemple, de la période présente du salut, les principes généraux de la morale exprimés par la loi demeurent inchangés. Notez Romains chapitre 8, verset 4 et chapitre 13, verset 8 à 10. Bien que dans un esprit complètement nouveau. Alors, il y a des principes nouveaux qui sont introduits, tels que l'admission totale des gentils, cela veut dire les non-juifs, sur un plan d'égalité avec les juifs et la position céleste des rachetés. Certaines ordonnances, par contre, ont été abolies, ordonnances mosaïques à l'égard du culte, circoncision ou sacrifice extérieur. extérieur, sacerdoce particulier avec autel et vêtements spéciaux. Ces règles étaient des ordonnances divines, mais en même temps, il s'agissait de principes dispensationnels dont la validité regardait seulement une période déterminée jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse a été faite, selon Galates chapitre 3, verset 19. Elles ont été accomplies en Christ et remplacées par des lois spirituelles beaucoup plus élevées, Hébreux chapitre 13, verset 10 et 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 et 8. Et c'est ici que nous pouvons réaliser la portée pratique considérable de cette si indispensable distinction des dispensations dans le plan divin du salut. L'oublier, c'est risquer de tomber dans l'auto-sanctification légaliste et dans la confusion. Beaucoup de principes de base du catholicisme sont le résultat inévitable de la non-observance de ces distinctions. Si en effet, en dépit du Nouveau Testament, on considère les principes dispensationnels de la loi mosaïque donnés à Israël comme toujours applicables et pour tous les peuples, il est logique de regarder comme biblique l'existence d'une prêtrise spéciale, telle que l'usage de l'encens, de vêtements sacerdotaux, et autre chose analogue, car en effet la distinction des dispensations diverses du plan de Dieu est à la fois extraordinairement pratique et d'une profonde importance pour l'histoire des hommes et pour le culte de l'Église. Si tout est écrit pour nous, tout n'est pas écrit de nous ou nous concernant. Il serait par exemple essentiellement faux de spiritualiser sans autre les promesses du royaume données par Dieu au peuple de l'Alliance, Israël, et de les transférer tout simplement à l'Église. L'Esprit Saint inspira la rédaction de Romains chapitre 9 jusqu'au chapitre 11, précisément dans le but de dénoncer une telle manière de faire. En ce qui concerne l'Ancien Testament et en ce qui concerne certaines affirmations des évangiles, par exemple Saint Matthieu chapitre 21 verset 45, il faut tenir compte du sens direct et du sens indirect, c'est-à-dire qu'il faut maintenir A, l'interprétation directe qui est loin de s'appliquer toujours directement à nous-mêmes, et B, l'application morale indirecte qui toujours contient quelque chose pour nous, tel que 2 Timothée, chapitre 3, versets 15 à 17. Et cette distinction est la contrepartie indispensable et le parallèle en relation avec la distinction des périodes de l'histoire du salut et de la révélation graduelle du plan divin de la rédemption. Chers amis, avant de terminer par la prière, sachez que l'Écriture sainte nous montre le plan de rédemption en son entier, dans une perspective définie, celle de la croix. Si éloigné dans le temps, avant ou après la croix, que soit une période de cette histoire, elle est toujours vue en relation avec elle. Cependant, plus elle en est éloignée dans le temps, plus brièvement elle se trouve dépeinte et inversement. La conclusion de l'histoire comme son commencement est un point, afin que Dieu soit tout en tous, selon 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 28. Néanmoins, le détail de tout ce que cela implique est encore scellé pour nous. Les choses cachées, elles appartiennent à Dieu l'Éternel. Deutéronome, chapitre 29, verset 29. Nous savons que l'histoire est plus large que semble le dire la Sainte Bible, qui est lue parfois superficiellement. Ce que la Sainte Bible contient concerne une partie du tout. Celle qui en est en relation directe avec le chemin de notre salut, ce dont nous avons besoin pour atteindre le but du salut. Les âges qui suivront montreront alors la sagesse et la richesse sans limite de la grâce et de la bonté de Dieu en Jésus-Christ. Éphésiens, chapitre 2, verset 7. Nous allons donc ensemble apprendre des choses vraiment de la plus haute importance dans les prochaines études que je espère de pouvoir commencer déjà demain, et vous verrez que vraiment vous connaîtrez tout le cheminement qui concerne notre rédemption. Chers amis, nous allons maintenant, si vous le voulez bien, prier ensemble. Dieu créateur et conservateur de l'univers, que ne pouvons-nous, en nous prosternant devant toi, te dire, comme le roi prophète, avec vérité : je bénirai l'Éternel qui est mon conseil. Je me suis toujours proposé l'Éternel devant moi, puisqu'il est à ma droite. Je ne serai point ébranlé. Que ne pouvons-nous ajouter comme le psalmiste? C'est pourquoi mon cœur s'est réjoui et ma langue chante de joie. Si tel pouvait être notre langage, Seigneur, nous ne sentirions pas notre conscience nous faire de douloureux reproches, car nous aurions rempli plus exactement nos devoirs. Nous aurions constamment agi comme étant sous ton regard paternel. Et combien alors de fautes déplorables nous n'aurions pas commises? Se peut-il que nous puissions oublier que sans cesse tu nous vois et tu nous entends, que tes yeux contemplent et sondent les fils des hommes? Si tes pensées étaient toujours présentes à notre âme, ne serait-elle pas pour nous une sauvegarde, un refuge assuré? Au milieu du monde comme dans la solitude, si nous nous proposions toujours l'Éternel devant nous, combien de paroles inconsidérées, vaines et répréhensibles seraient supprimées? combien de pensées coupables seraient repoussées, combien nous deviendrait facile et doux l'accomplissement de notre devoir. Oui, je le prends, ce que je viens de dire aussi, pour moi personnellement. Seigneur, tu es un bouclier autour de moi. C'est donc en toi seul qu'est notre sûreté. Mais comment vaincre cette langueur mortelle qui nous empêche de venir à toi? Comment repousser la funeste influence qui nous fait oublier ta divine présence? Combien pouvoir vivre et comment marcher dans ce sentiment de foi véritable? C'est en implorant ton divin secours au Seigneur et notre Seigneur et Sauveur de nos âmes. C'est en effet en fixant nos pensées sur toutes les souffrances que tu as endurées pour nous. C'est en demandant avec insistance et désir sincère de l'obtenir, l'assistance du Saint-Esprit, que Dieu a promis d'accorder à tous ceux qui souhaitent avec ardeur de recevoir ce don précieux. C'est en employant les moyens d'édification que sa bonté a préparé pour nous et dont nous ne pouvons mépriser l'usage sans encourir la rigueur de son jugement. Que ta miséricorde, ô Seigneur, agisse dans nos âmes et nos esprits, afin que tous nous puissions te sentir à notre droite. Tous nos pouvoirs sont et viennent que de toi, car sans toi nous sommes rien. Nous pouvons nous endormir et nous réveiller uniquement par toi. Merci Seigneur de ce que tu nous aimes et que tu désires nous aider toujours, journellement. Merci Seigneur, à toi toute la gloire, tout l'honneur, et nous disons ensemble, Amen.